Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 6 des séries webcast ETI lancées par PwC Société d'Avocats. Donc nous allons nous présenter. Je suis Guillaume Collard, accompagné d'Hortense Baquet. Nous sommes tous les deux avocats fiscalistes au sein de PwC Société d'Avocats et on intervient un peu plus particulièrement sur des problématiques de fiscalité personnelle en lien avec effectivement les rémunérations des dirigeants. Alors, PwC Société d'Avocats a lancé cette série de webcasts dédiés aux PME, aux ETI, aux entreprises familiales. Divers sujets ont été abordés au cours des épisodes précédents. Alors, cet épisode, quant à lui, abordera le thème donc, de la fiscalité des dirigeants, du dirigeant donc, de la PME, de l'ETI ou de l'entreprise familiale, qui est le plus souvent également non seulement dirigeant, mais également actionnaire. Au sein du groupe, particulièrement dans le cadre de sociétés non cotées et d'entreprises familiales. Alors, cet épisode aura pour objet, si vous voulez, de brosser sous forme d'un rappel les principales obligations déclaratives à la charge de la société en ce qui concerne la rémunération de ses dirigeants, dirigeants au sens large, puisqu'on va parler effectivement de plusieurs flux. Nous allons parler bien évidemment de la rémunération des fonctions du mandat social proprement dit, mais également lorsque ce dirigeant a également une casquette d'actionnaire, la fiscalité liée aux revenus de l'actionnariat, dividendes, plus-values. Et enfin, dans une dernière partie, nous allons nous attarder sur les différents mécanismes d'association au capital, réglementés ou non, qui aujourd'hui existent en droit positif, qui sont mis en œuvre effectivement par la pratique de façon à associer, j'ai envie de dire, les dirigeants et managers clés à la prise de valeur, à l'accroissement de valeur de la société, du groupe. Donc clairement aujourd'hui cet épisode a pour objet surtout effectivement d'aborder ces sujets sous le prisme des obligations déclaratives de la société, des points d'attention à avoir par rapport à la fiscalité et donc aux différents prélèvements retenus à opérer sur ces rémunérations et revenus d'actionnariat salarié. Et puis également, nous aborderons dans cette seconde partie, comme je l'évoquais, ces mécanismes d'association au capital avec un point d'attention particulier sur les dernières jurisprudences du Conseil d'État de juillet 2021 qui sont venues effectivement donner un cadre un peu inquiétant à la fiscalité des gains en capital réalisés par les dirigeants et managers clés dans le cadre de management package non réglementé, et en donnant un peu plus de jalons quant aux marqueurs permettant effectivement d'identifier une éventuelle requalification des plus-values en salaire. Alors, sur la rémunération des fonctions des dirigeants, donc là, c'est vraiment un rappel bref. On va se focaliser sur les dirigeants assimilés salariés de sociétés par action. Donc, en termes de fonctions et de rémunération visées, on évoque bien évidemment les présidents du conseil d'administration de sociétés anonymes, présidents de SAS, directeur général, y compris directeur général délégué, membres du directoire d'une SA, au titre, donc, comme je l'indiquais, de la rémunération de leurs mandats sociaux, mais y compris lorsqu'ils ont un poste d'administrateur de leurs jetons de présence, qui sont dits dans ce cas-là des jetons de présence spéciaux. Alors, ce sont des dirigeants qui, au titre de leurs mandats sociaux, sont assimilés salariés, à la fois en matière de sécurité sociale, mais également en matière fiscale. Donc, au titre du régime social, ces individus sont affiliés à titre obligatoire au régime général des salariés, à raison du mandat. Et ce, indépendamment d'un éventuel cumul avec un contrat de travail. Schématiquement, toutes les cotisations sociales, patronales, sociales, salariales sont dues au titre de la rémunération du mandat social, à l'exception près, effectivement, de la couverture chômage, des cotisations chômage. Alors, petit point à rappeler, les dirigeants, bien évidemment, qui cumulent leur mandat social avec un contrat de travail au titre de fonctions techniques distinctes, peuvent bien évidemment être affiliés au régime d'assurance chômage pour la partie de leur activité salariée. La règle de principe, c'est qu'il n'y a pas donc de couverture d'assurance chômage au titre du mandat social proprement parlé, mais il y a bien évidemment une possibilité d'affiliation à titre privé à des organismes d'assurance volontaire comme la GSC, organisme bien connu, ou la PPI. Au même titre qu'un salarié, les cotisations sociales sont dues via la DSN du mois de la mise en paiement du salaire, et donc doivent être précomptées s'agissant des cotisations sociales salariales. Elles doivent être réglées en sus s'agissant des cotisations sociales patronales, donc par la société, dans la déclaration sociale nominative du mois, généralement avant le 5 du mois suivant la période, s'agissant d'entreprises de plus de 50 salariés. En matière d'impôt sur le revenu, eh bien, la rémunération nette des cotisations sociales salariales déductibles est imposable comme un salaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu, y compris, comme je l'indiquais, pour les éventuels jetons de présence qui seraient perçus par ce mandataire social au titre d'une fonction d'administrateur, hein, au sein du board, par exemple. Et depuis 2018, cet impôt sur le revenu doit être prélevé à la source également en paye, au même titre que les cotisations sociales via la déclaration sociale nominative.
Alors, concernant les obligations déclaratives de la société, Guillaume a pu brièvement le rappeler. La société doit déclarer une DSN une fois par mois via Net Entreprise et elle doit se faire obligatoirement dans le mois qui suit l'emploi pour lequel la rémunération a été perçue, donc le mois précédent. La souscription de ces déclarations permet non seulement de s'acquitter des déclarations à destination de l'URSSAF, mais également à destination de la plupart des autres organismes sociaux. Vis-à-vis de l'administration fiscale, elle permet de déclarer les rémunérations perçues au titre du mandat social imposable à l'impôt sur le revenu en tant que salaire. Et donc, selon l'effectif de la société, si l'entreprise emploie moins de 50 salariés, la DSN doit être faite au plus tard le 15 du mois qui suit la période de travail rémunéré. Et si l'entreprise emploie plus de 50 salariés, la DSN doit être faite au plus tard le 5 du mois qui suit la période de travail rémunéré. Le défaut de production de la DSN dans les délais prescrits ou l'omission de salariés entraîne une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié ou assimilé. Et cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard et est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Également, l'employeur qui n'a pas payé les cotisations dans les délais légaux s'expose à des majorations de retard dont le montant est fixé à 5% des cotisations non réglées à la date d'exigibilité et s'y ajoute des intérêts de retard de 0,2% par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité.
À côté, effectivement, de ces obligations déclaratives en matière sociale et fiscale qui pèsent donc sur la société au titre de la rémunération du mandat de son dirigeant, eh bien, peut le cas échéant effectivement se cumuler d'autres paiements, notamment des jetons de présence ordinaire. Donc là, on va parler effectivement non pas du dirigeant exécutif qui a un mandat social exécutif, mais tout simplement effectivement d'administrateurs, des membres donc, du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance, dont la rémunération n'est pas assimilée à un salaire au plan social et fiscal, mais est regardée comme un revenu de capitaux mobiliers. Donc on parle ici de jetons de présence ordinaire, donc, comme je l'indique, payés à des personnes qui ne cumulent pas leur mandat d'administrateur ou de président du conseil de surveillance avec un mandat social exécutif et ou un contrat de travail. Dans ce cas-là, le jeton de présence est soumis au plan social à un forfait social de 20% qui est acquitté par la société versante, également via la déclaration sociale nominative du mois relatif au règlement, donc avant la même date. Il n'est pas nécessaire en principe de faire une DSN fractionnée, puisque le règlement de forfait social se fait au titre de la DSN du mois, au même titre que le règlement des cotisations sociales ordinaires sur les autres salaires. Ce forfait social de 20% est à la charge de la société versante, en sus du montant brut du jeton de présence ordinaire. À côté de cette déclaration en DSN, le montant brut du jeton de présence doit également être indiqué et télédéclaré auprès de la Direction générale des finances publiques via le formulaire 2777. accompagné du règlement du prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc, pour rappel, ce prélèvement forfaitaire unique de 30%, il s'agit en réalité de la fiscalité personnelle subie par le bénéficiaire du jeton de présence sur celui-ci. Ce PFU doit donc être précompté par la société versante et téléréglé en même temps que la déclaration 2777, au plus tard le 15e jour du mois suivant la mise en paiement du jeton de présence. Cette télédéclaration et ce télépaiement doivent obligatoirement être effectués sous format dématérialisé auprès du SIE gestionnaire, dont dépend le siège de la société versante, ou de la direction générale des grandes entreprises, le cas échéant, si elle en dépend. Pour rappel, donc, ce PFU de 30% est composé d'un prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% et des prélèvements sociaux de 17,2%. À côté de cela, ce montant brut du jeton présence devra bien évidemment, ainsi que le montant du PFU prélevé, être déclaré au sein des imprimés fiscaux uniques, il s'agit des déclarations 25-61, qui sont à déclarer non pas sur une base mensuelle, mais sur une base annuelle, au plus tard le 15 février de l'année civile, suivant les opérations, suivant l'année au titre de laquelle les opérations ont été réalisées. Donc, s'agissant effectivement, par exemple, de revenus de capitaux mobiliers, y compris de jetons de présence payés en 2022, et on parle ici de l'IFU qui devra être télédéclaré au plus tard le 15 février 2023. Alors, en cas de non-respect d'obligation de télédéclaration et télépaiement, c'est-à-dire de non-respect de l'obligation à un recours, au recours à un mode dématérialisé, il y a une majoration de 0,2% qui s'applique sur le montant des droits. Enfin, en cas de manquement déclaratif, de déclaration tardive, eh bien, ce sont les intérêts de retard et la majoration de droits communs qui s'appliquent, à savoir un intérêt de retard de 0,2% par mois, ainsi qu'une majoration de 10%, également assise sur le montant des droits. S'agissant des revenus de l'actionnariat, alors, comme nous l'indiquions effectivement, au sein d'ETI, de PME, d'entreprises familiales, les mandataires sociaux sont le plus souvent également titulaires, actionnaires, détenteurs de toute partie du capital. Et donc, il se peut, au titre des revenus d'actionnariat, que des obligations déclaratives soient également applicables donc, à la société. Alors, s'agissant du cas le plus courant, nous allons parler donc, de dividendes d'actions, dividendes de titres détenus hors PEA. Donc, sur le rappel du régime d'imposition des dividendes, eh bien, c'est un peu comme le jeton présence, c'est la même chose, puisqu'on a toujours ce prélèvement forfaitaire non libératoire au taux global de 30%, à savoir 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, qui doit être précompté par la société française versant les dividendes, également via le formulaire 2777, qui est aussi à télédéclarer et téléréglé, au SIE gestionnaire ou à la DGE, avant le 15 du mois suivant, le mois de la mise en paiement des revenus. On a également cette obligation de faire mention donc des dividendes bruts et du montant du PFU précompté dans l'imprimé fiscal unique, qui est à télédéclarer le 15 février, de l'année suivant, l'année civile, au cours de laquelle les revenus de capitaux mobiliers ont été réglés. Si tu veux continuer sur la slide suivante.
Alors, concernant les dividendes dans le PEA, alors il y a deux types de PEA. Il y a le PEA classique, c'est 150 000 euros par titulaire au maximum. Et pour le PEA dit PME-ETI, c'est 75 000 euros par titulaire, soit un plafond total de 225 000 euros.
Voilà, alors pour rappel, effectivement, ces plafonds-là, on parle ici de plafond d'abondement en numéraire. Il s'agit effectivement du numéraire qui peut être abondé sur les comptes espèces de ces PEA classiques et ETI. Cet abondement total et maximal de 225 000 euros ensuite donc peut être utilisé en toute ou partie pour souscrire ou acquérir des titres, donc des actions ordinaires de sociétés éligibles au PEA. Et ensuite, peu importe la prise de valeur, bien évidemment, de ces titres, peu importe le montant des plus-values réalisées, le montant des dividendes encaissés dans l'enveloppe du PEA, on peut tout à fait, bien évidemment, excéder ces montants. Ces plafonds ne s'appliquent uniquement qu'aux abondements numéraires sur le compte espèce. Donc, on va aborder effectivement les critères d'éligibilité au PEA, PME, ETI.
Tout à fait. Alors, concernant les conditions d'éligibilité des titres au PEA, PME, ETI, il faut tout d'abord que l'effectif salarié n'excède pas 5 000 salariés. Et les deux conditions alternatives doivent être respectées, c'est soit le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 2 milliards d'euros. Donc, concernant les règles d'imposition des gains réalisés par le PEA, PME, ETI, pendant la durée du plan, donc c'est-à-dire en cas d'absence de retrait ou de rachat des titres mis dans le PEA, il y a une exonération d'impôt sur le revenu en cas de réinvestissement dans le PEA, donc en cas de réinvestissement des gains perçus grâce à ces titres qui sont été inscrits les sommes inscrites en PEA. Également, concernant lorsqu'il y a un retrait ou un rachat avant 5 ans, il y a 12,8% d'impôt sur le revenu qui s'applique ou sur option globale, l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent évidemment les 17,2% de prélèvements sociaux. S'il y a un retrait ou un rachat après les 5 ans d'ouverture du PEA, il y a une exonération totale d'impôt sur le revenu et il y a donc uniquement 17,2% de prélèvements sociaux qui s'appliquent sur ces gains.
Voilà, alors schématiquement, pour résumer ici à ce stade, ce qu'on peut retenir, c'est que les gains, les produits de cession, les plus-values de cession réalisées sur des titres dans l'enveloppe du PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu, pour autant qu'aucun retrait, rachat ou clôture du PEA n'intervienne avant l'expiration du 5e anniversaire de la date d'ouverture de ce PEA. Dans tous les cas, les prélèvements sociaux, eux, demeurent dus. Ils seront précomptés par la banque dépositaire du PEA lors d'un retrait, lors d'un rachat, lors d'une clôture, à hauteur, bien évidemment, des produits afférents aux sommes extraite du PEA. Alors, il y a une petite particularité s'agissant du périmètre de l'exonération d'impôt sur le revenu, s'agissant des dividendes de titres non cotés détenus dans le PEA.
Donc, il y a effectivement une petite exception. Pour les dividendes de titres non cotés détenus dans un PEA, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu chaque année, mais seulement dans la limite de 10% de la valeur d'inscription des titres. Donc, il faut faire attention à cette limite. Et concernant les obligations déclaratives à la charge des établissements financiers, c'est uniquement l'établissement financier teneur du PEA qui a la charge de ces obligations déclaratives, donc pas la société.
Voilà, et à la différence donc effectivement des dividendes d'actions détenus hors PEA. S'agissant des plus-values de cession de titres, également par définition hors PEA, eh bien, ce sont le même régime d'imposition qui s'applique que celui précédemment vu pour les dividendes et pour le jeton de présence ordinaire, à savoir l'application du PFU de 30%, donc 12,8% d'IR et les prélèvements sociaux de 17,2%. Alors, la personne physique a la possibilité d'opter pour l'application du barème progressif si les actions ont été acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2018. Cela peut être particulièrement opportun s'il a une durée de détention longue, notamment généralement plus de 2 ou 8 ans, de façon à bénéficier d'un abattement pour durée de détention sur la plus-value imposable au barème progressif de l'IR. Généralement, par expérience, compte tenu effectivement des taux moyens d'imposition au barème progressif, il faut vraiment avoir une plus-value bénéficiant potentiellement d'un abattement à un taux maximal de 65 ou de 85% de façon à avoir intérêt à opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu en lieu et place du taux forfaitaire de 12,8%. Alors, contrairement aux dividendes ou aux jetons de présence, une plus-value de cession ne fait pas l'objet du précompte du PFU à la source, puisqu'il n'y a pas de déclaration 2777 à produire, le PFU de 30% ou l'imposition est à acquitter par la personne physique cédante l'année suivant la réalisation de la cession, suite à la déclaration de cette plus-value dans sa propre déclaration de revenus, formulaire 2042-2042-C-2074, et c'est dans le cadre de cette déclaration de revenus que la personne, effectivement, va décider d'opter ou non pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, des obligations déclaratives, en résumé, beaucoup plus légères en matière de plus-value pour la société, puisque seul l'IFU, en principe, est à remplir. S'agissant des revenus d'actionnariat, alors il est important également d'avoir en tête qu'il exige des mécanismes d'association au capital réglementés, prévus par la loi, encadré par la loi, dont les dirigeants, managers clés ou les salariés au sens large, effectivement, peuvent être bénéficiaires, suivant la mise en place de ces mécanismes par la société, par le groupe. Alors, on peut effectivement citer le dispositif d'attribution gratuite d'actions, qui est un régime légalement encadré par le code de commerce. Certaines conditions juridiques sont à respecter. Quand ces conditions juridiques sont respectées, effectivement, les gains, et notamment le gain d'acquisition réalisé au titre de ces actions gratuites par les bénéficiaires salariés, le cas échéant mandataires sociaux, bénéficient d'un régime fiscal et social spécifique régi par le Code général des impôts. Alors, s'agissant du périmètre d'un bénéficiaire d'une attribution gratuite d'actions, un petit rappel, s'agissant d'une société émettrice d'actions gratuites françaises non cotées, eh bien, pourront être attributaires d'actions gratuites, bien évidemment, les salariés et les dirigeants de la société émettrice. Par dirigeant, on entend les dirigeants titulaires d'un mandat social exécutif, président du conseil d'administration, cas échéant directeur général, ainsi que les salariés des filiales de cette société émettrice, lorsque ces filiales sont détenues à hauteur de 10% au moins du capital par la société émettrice. En revanche, les dirigeants des filiales d'une société émettrice non cotée ne peuvent recevoir des actions gratuites dans le cadre du régime réglementé. S'agissant d'une société cotée, les bénéficiaires sont, comme la société non cotée émettrice, les salariés et les dirigeants. La particularité, c'est que non seulement les salariés des filiales d'une société cotée, mais également ses dirigeants peuvent, contrairement à une société émettrice non cotée, bénéficier d'une attribution gratuite d'actions. Alors ici, effectivement, on peut peut-être rappeler brièvement les conditions juridiques du régime d'attribution gratuite d'actions. S'agissant des plans mis en place en vertu d'une assemblée générale extraordinaire postérieure, donc au 7 août 2015, et depuis 2018, les attributions d'actions gratuites doivent respecter une période minimale d'acquisition définitive de 1 an, c'est-à-dire que effectivement, les actions ne peuvent être transférées, la propriété des actions ne peut être transférée aux bénéficiaires avant l'expiration de cette période minimale d'acquisition définitive d'un an à compter de l'attribution. Et suite à cette période minimale d'un an, s'ouvre une période de conservation minimale d'un an, de façon à ce que une période d'indisponibilité globale de 2 ans soit respectée, c'est-à-dire que les titres, en tout état de cause, ne peuvent être cédés par le bénéficiaire avant l'expiration d'une période d'indisponibilité globale de 2 ans. Cela signifie que si la période d'acquisition définitive n'est pas circonscrite au minimum de 1 an, mais est portée à 2 ans, eh bien, il sera tout à fait facultatif de mentionner au plan une période de conservation, puisqu'on aura par définition respecté la période d'indisponibilité globale de 2 ans. C'est ce qu'on appelle généralement les plans 2 plus 0. Sinon, le plan classique, c'est un plan dit 1 plus 1, une période d'acquisition définitive de 1 an, suivie d'une période de conservation d'un an. Voilà, slide suivante. Donc, s'agissant du mécanisme de l'action gratuite, du mécanisme économique, donc, nous avons donc indiqué qu'à la date d'attribution, le bénéficiaire est juste bénéficiaire de droits futurs à acquisition définitive d'actions gratuites au terme d'un délai minimal d'un an. À l'issue de ce délai minimal d'un an, donc, intervient l'acquisition définitive des actions, et c'est à ce moment-là que le bénéficiaire devient donc propriétaire des actions et réalise par définition un gain d'acquisition qui correspond en réalité à la valeur totale des actions à cette date. Il peut les détenir effectivement, donc le plus souvent un minimum 1 an lorsque la période d'acquisition définitive était minimum d'un an. Et au moment de la cession, l'éventuel accroissement de valeur entre la date d'acquisition définitive et la date de cession, eh bien, constituera la plus-value de cession. Alors, le régime fiscal et social ad hoc des actions gratuites porte sur l'imposition du gain d'acquisition proprement dit, qui est un régime d'imposition spécifique, qu'on verra un peu plus tard. La plus-value de cession, elle, relève des dispositions de droit commun, à savoir, le régime d'imposition des plus-values, avec en principe le prélèvement forfaitaire unique de 30% qui est applicable. Voilà, donc s'agissant de l'imposition du gain d'acquisition, ce gain d'acquisition est égal à la valeur des actions à la date d'attribution définitive. Il y a bien évidemment un coût patronal, un coût social patronal pour l'employeur des bénéficiaires, l'employeur des bénéficiaires pouvant être une société distincte de la société émettrice, ça peut être par exemple la filiale de la société émettrice si l'un des bénéficiaires est un salarié d'une filiale. L'employeur doit donc s'acquitter d'une contribution sociale patronale de 20% qui est assise sur la valeur des actions à leur date d'acquisition définitive. Cette contribution sociale patronale, en fait, elle est réglée comme le forfait social via la déclaration sociale nominative du mois afférent au mois d'acquisition définitive des actions gratuites. Le gain d'acquisition, lui, il est taxable entre les mains des bénéficiaires, non pas à la date d'acquisition définitive, mais lorsqu'il cédera les actions. S'agissant du régime d'imposition, il y a un régime dual, c'est-à-dire que le régime d'imposition au nom du bénéficiaire est beaucoup plus favorable dans la limite de 300 000 euros de gains d'acquisition réalisés par an. C'est-à-dire que c'est le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui sera applicable, mais après un abattement de 50%. Il conviendra également, bien évidemment, d'acquitter les prélèvements sociaux de 17,2%, donc CSG, CRDS et le prélèvement social de solidarité. Sur la fraction du gain d'acquisition qui, en revanche, excède ce seuil de 300 000 euros par an, eh bien, le barème progressif est applicable, mais sans abattement de 50%. Et en lieu et place des prélèvements sociaux de 17,2%, nous aurons la CSG-CRDS sur les revenus d'activité, donc sur les salaires, au taux de droit commun de 9,7%, auquel il conviendra d'ajouter les 10% de contribution sociale salariale. Alors, l'ensemble de ces impositions en impôt sur le revenu, en CSG-CRDS et contributions sociales seront recouvrées auprès du bénéficiaire l'année suivant la cession des actions par voie d'émission des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux reçus par ce bénéficiaire. Autrement dit, il n'y a pas d'obligation déclarative ou de précompte de ces impositions pesant sur l'employeur ou la société émettrice. Hein. Seule la contribution sociale patronale de 20% doit être réglée à l'acquisition définitive. S'agissant de la plus-value de cession, donc l'éventuel accroissement de valeur entre la cession et la date d'acquisition définitive des actions, eh bien, on retourne au régime de droit commun d'imposition des plus-values de cession de titres avec l'application par principe du PFU 30%. Dernier point, il y a néanmoins des obligations déclaratives, non fiscales, mais des obligations déclaratives à accomplir par l'employeur de bénéficiaires d'attribution gratuite d'actions en déclaration sociale nominative à deux points. En termes de chronologie, d'une part à l'attribution des droits et d'autre part à l'acquisition définitive des actions gratuites. Et l'accomplissement de ces obligations déclaratives est aujourd'hui en fait l'une des conditions d'exonération des cotisations sociales de droit commun. À côté du régime des attributions gratuites d'actions coexiste le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, les BSPCE. Qui sont circonscrits effectivement à certaines sociétés répondant à des conditions juridiques précises. Alors, les BSPCE sont souvent effectivement qualifiés de stock options pour les startups, pour les jeunes entreprises, puisqu'il s'agit effectivement de bons attribués, souscrits à certains bénéficiaires qui peuvent être exercés par ces derniers et donc donner droit aux actions sous-jacentes. S'agissant des conditions légales d'attribution, eh bien, on parle des sociétés par action, donc à l'exclusion notamment des SARL, il s'agit de la même condition applicable pour les actions gratuites. Ce sont des sociétés qui doivent être bien évidemment soumises à l'IS. Point important et distinctif des BSPCE par rapport aux AGA, eh bien, ces sociétés émettrices doivent être en activité inscrite au RCS depuis moins de 15 ans, jeune société ou start-up. Et capital de la société émettrice détenu pour au moins par 25% par des personnes physiques ou si ce capital est détenu par des personnes morales, eh bien, ces personnes morales doivent être détenues elles-mêmes en leur capital au moins pour 75% par des personnes physiques. Alors, le régime fiscal et social des BSPCE, des gains réalisés lors de la cession de BSPCE, est beaucoup plus simple et est un peu plus favorable que les gains d'acquisition d'actions gratuites, puisque lorsque, au moment de la cession, le bénéficiaire a été en activité au sein de la société depuis plus de 3 ans, eh bien, c'est le taux global de 30%, donc assimilable au PFU, qui est applicable, à savoir 12,8% d'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent bien évidemment, et comme toujours, les prélèvements sociaux 17,2%. Si, au moment de la cession, en revanche, le bénéficiaire a exercé son activité depuis moins de 3 ans au sein de la société, en lieu et place de ce taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8%, eh bien, ce sera un taux à 30%, ce qui nous fait porter la charge fiscale totale à un taux marginal de 47,2% lorsque l'on y ajoute les prélèvements sociaux. Le point important à mentionner, à la différence des actions gratuites, c'est qu'il n'y a aucun coût social patronal pour l'employeur. Donc, lorsque, effectivement, des actionnaires, une société s'interroge sur l'identification d'un mécanisme d'association au capital de façon à y intégrer ses salariés, ses managers clés, ses dirigeants au sens large, eh bien, le coût pour l'entreprise est bien évidemment un facteur important. Alors, effectivement, on va pouvoir s'orienter vers les BSPCE pour autant que les conditions légales d'émission soient satisfaites au niveau de la société émettrice. À côté de ces régimes d'actionnariat salarié réglementés et donc prévus par le Code de commerce et dont les régimes fiscaux et sociaux sont gérés par le Code général des impôts, eh bien, c'est développé dans la pratique la confection, la fabrication en fait de management package, donc de mécanismes d'association au capital non réglementé. Cette pratique qui existe depuis une bonne vingtaine d'années accompagne généralement des transactions sur le capital de ces sociétés cibles. Il s'agit d'incentiver, d'associer au capital effectivement des dirigeants de sociétés cibles faisant l'objet d'une acquisition, soit par un investisseur financier opérant dans le secteur du private equity, soit même par un investisseur opérationnel opérant dans le même secteur d'activité de la cible dans le cas d'une transaction entre industriels et dans le cas d'une logique de croissance externe. Généralement, effectivement, cette structuration du management package est opérée via la souscription de divers instruments, d'instruments de nature différente, cela peut être des actions ordinaires de préférence. Souscrit directement, on peut voir également des cas de figure dans lesquels les managers sont en réalité actionnaire en action ordinaire d'une management company, Manco, qui elle-même détient les instruments financiers au sein du groupe cible. Alors, la philosophie du management package, c'est bien évidemment d'aligner autant que possible les intérêts de l'investisseur financier, de l'acquéreur, avec ceux du management en place, de façon à les fidéliser, à les motiver, et ainsi les associer à la création de valeur sur toute la durée de l'investissement. Alors, la structuration des management package reposait traditionnellement sur deux types d'outils, effectivement les supports encadrés par la loi, et notamment les actions gratuites, les attributions gratuites d'actions, et également, comme on l'indiquait, des instruments ad hoc, plus souples et innovants, sans encadrement fiscal spécifique. Et donc, c'est vrai qu'il y a 10, 15, 20 ans, on voyait souvent des management package structurés sous forme de bons de souscription d'actions, BSA, qui ont été dans le collimateur des administrations fiscales et sociales, qui ont fait effectivement l'objet de nombreux redressements au cours des dernières années et qui sont rarement utilisés par la pratique aujourd'hui. Et donc effectivement, la conclusion, c'est qu'il existe un environnement juridique et fiscal incertain sur la structuration de ces packages lorsque l'on parle des instruments qui ne sont pas réglementés. D'autant plus effectivement que des arrêts récents ont été rendus par le Conseil d'État en juillet 2021 qui viennent en matière d'impôt sur le revenu confirmer et valider les redressements d'administration fiscale, opérant un redressement des plus-values de cession réalisées, notamment en cas de cession de ces instruments non réglementés type BSA, en salaire, en rémunération. Et c'est ce qu'on verra effectivement par la suite. Alors schématiquement, sur ces management packages qui étaient historiquement conçus au moyen d'instruments non réglementés, eh bien, les administrations sociales, URSSAF et fiscales se sont progressivement penchées sur ces schémas de façon à, dans le cadre de redressement et de contrôle, en démontrant un lien entre l'investissement et la qualité de salarié ou de mandataire social de ces individus, redresser les plus-values ainsi réalisées par ces managers en salaire, en rémunération. Il y a bien évidemment un enjeu majeur pour la société, notamment pour l'employeur de ces managers clés, de ces dirigeants en cas de redressement, puisque les URSSAF, l'administration sociale, viendra redresser la société sur les cotisations sociales patronales et cotisations sociales salariales, y compris sur le montant du gain brut réalisé par ces individus. Nous avons eu une illustration il y a quelques années en cela, dans différents arrêts rendu par la Cour de cassation en 2019, où le cours de cassation effectivement indiquait que la simple faculté d'acquérir ou de souscrire des instruments au bénéfice d'un groupe de salariés, de managers, peut constituer un avantage entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Le simple fait effectivement de souscrire, de réserver l'attribution, la souscription de ces instruments à des salariés est considéré par la Cour de cassation comme pouvant constituer un avantage salarial. Alors ça représente un surcoût considérable lorsque l'on a en tête effectivement les taux de cotisation sociale patronale et salariale, alors y compris salariale, puisque bien évidemment c'est en principe à la charge de l'employeur de venir précompter la fraction salariale des cotisations sociales. À ces redressements en principal s'ajoutent bien évidemment les intérêts de retard au taux annuel de 2,4% ainsi que le cas échéant une majoration de droit commun qui est au taux de 5% en matière de charges sociales. L'enjeu pour l'investisseur dirigeant, manager clé ou salarié sur ses risques de requalification est en matière fiscale puisqu'il verra sa plus-value de cession redressée de façon à être imposée au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires. Donc, en lieu et place d'une imposition définitive en principe à un taux global de 30% au titre du PFU, eh bien, ce dirigeant, ce manager, ce salarié se verra redressé par le service d'impôt ou la brigade de contrôle au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc le taux marginal s'établit à 45% et peut même monter jusqu'à 49% si l'on tient compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. À ce redressement en principal viendra s'ajouter bien évidemment l'intérêt de retard au taux annuel de 2,4% ainsi qu'une majoration de 10% qui pourra effectivement être le cas échéant augmenté à 40% en cas de caractérisation d'un manquement délibéré. Alors, jusqu'alors, jusqu'en 2021, jusqu'au fameux arrêt rendu par le Conseil d'État le 13 juillet 2021, il était généralement admis et compris au sein des praticiens, des avocats fiscalistes et même de l'administration fiscale elle-même que dès lors qu'il y avait un investissement financier de départ, une prise de risque capitalistique réalisée par le salarié, à savoir qu'il avait souscrit aux instruments une valeur de marché, on était plus ou moins sécurisé sur le fait de dire que l'accroissement de valeur ultérieure devrait qualifier au régime d'imposition des plus-values et ne devrait pas effectivement risquer d'être recaractérisé en salaire. Les arrêts du Conseil d'État, trois arrêts rendus en date du 13 juillet 2021, viennent complètement bousculer cette appréhension du sujet qui était partagée par les praticiens et notamment les services de contrôle depuis de nombreuses années. Alors, il convient quand même de noter que les espèces en cause dans ces arrêts rendus par le Conseil d'État en matière d'impôt sur le revenu, et on est bien en matière fiscale, concernaient des espèces anciennes et notamment mettant en lumière des instruments qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, notamment des bons de souscription d'actions et des options d'achat d'actions, notamment par voie de mécanismes contractuels. Alors la question se pose aujourd'hui du point de savoir si néanmoins le raisonnement appliqué par le Conseil d'État dans ces arrêts ne pourrait pas être transposé à d'autres instruments, actions ordinaires, actions de préférence, également utilisées dans le cadre des Malone Package aujourd'hui mises en place, ou mises en place et actuellement en cours et non encore débouclées. Alors, sur la position prise par le Conseil d'État dans ses arrêts, c'est bien le rejet de la conception traditionnelle reposant sur la prise de risque financier. Et le Conseil d'État introduit par là même une nouvelle grille d'analyse, en distinguant en fait plusieurs temporalités dans la réalisation possible d'un gain sur ces instruments non réglementés. La première temporalité, ce sera effectivement à l'entrée dans le management package, à l'investissement par le salarié et le manager. Et la question qu'il convient de se poser, c'est: est-ce qu'un avantage est octroyé au manager, au dirigeant, lors de l'acquisition des instruments? Autrement dit, lui permettons d'acquérir les instruments à un prix décoté, à une valeur de convenance qui est inférieure à la valeur de marché. Deuxième temporalité, notamment en cas d'instrument optionnel, type BSA ou option, lors de l'exercice du bon, puisque l'exercice du bon permet à son bénéficiaire d'obtenir l'action sous-jacente moyennant le règlement du prix d'exercice. Enfin, troisième temporalité, la cession proprement dite de l'instrument. Alors, s'agissant effectivement de la première temporalité, l'éventuel avantage octroyé à l'investisseur salarié ou dirigeant à l'entrée d'investissement, eh bien, deux critères doivent être remplis de façon à permettre à l'administration fiscale de redresser ou de caractériser un avantage taxable en salaire au moment de cet investissement. D'une part, eh bien, on doit être en présence d'un schéma dans lequel les instruments ont été acquis à un prix préférentiel, donc un prix inférieur à la valeur de marché, le cas échéant par application d'une des codes. Deuxième critère, il doit exister, bien évidemment, un lien entre cet avantage et l'exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié par l'investisseur. Lorsque cet avantage trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, bien, il a été considéré par le Conseil d'État que cet avantage accordé à la nature d'un salaire. Et donc, cet avantage doit être imposé non pas au débouclage de l'investissement, non pas à la cession, mais immédiatement au moment de l'investissement, puisqu'on va considérer que l'avantage a été mis à disposition, a été réalisé finalement dès la souscription des actions de par la décote octroyée. Point important également mentionné dans ces arrêts du Conseil d'État, même si l'on est dans un cas de figure où l'on peut prouver que les actions, les instruments ont été souscrits à valeur de marché, donc sans décote, eh bien, le juge administratif nous indique que cela ne préjuge en rien et en tout cas ne sécurise pas l'imposition de l'accroissement de valeur ultérieure, l'accroissement de la plus-value selon le régime d'imposition des plus-values. Et justement, nous allons donc aborder maintenant les gains réalisés lors de la sortie de l'investissement. Le Conseil d'État, compte tenu du fait que les espèces intéressées des bons de souscription d'action, a distingué deux temporalités. D'une part, l'exercice, donc la levée de l'option du BSA, et d'autre part, la cession sèche du BSA. Alors, en cas de levée d'option, levée d'un instrument optionnel type BSA, eh bien, le Conseil d'État considère que la plus-value d'acquisition issue de l'exercice des bons, c'est-à-dire la différence entre la valeur vénale des actions au jour de l'exercice et le prix d'exercice, le cas échéant, décaissé, voire même le prix de souscription du bon décaissé à l'origine, eh bien, ce gain d'exercice constitue par nature et par principe un revenu d'emploi imposable au nom du bénéficiaire salarié ou dirigeant dans la catégorie des traitements et salaires à l'impôt sur le revenu. Et ce, indépendamment du point de savoir si le prix d'exercice correspondait effectivement à la valeur de marché des actions au jour de l'attribution initiale ou la souscription initiale du bon. En cas de cession de l'instrument, donc dans les espèces, au cas particulier, il s'agissait de cession de BSA sans exercice, en tout cas, c'était l'hypothèse qui avait été étudiée et commentée par le rapporteur public, eh bien, le principe, au contraire de l'exercice du BSA, le principe, et c'est en cela quand même rassurant, on reste sur un principe d'imposition au régime d'imposition des plus-values de cession de titres, c'est-à-dire que par principe, la cession, le gain de cession d'un instrument en capital, BSA au cas particulier, donne droit par principe au PFU de 30%. On reste sur de l'imposition de la plus-value. Il y a une exception à cela. Bien évidemment, par exception, s'il existe un lien entre l'investissement réalisé et le fait que le contribuable exerce des fonctions dirigeant ou salarié au sein du groupe, la plus-value de cession peut, par exception, être requalifiée en salaire. Et indépendamment du point de savoir, comme on l'indiquait, si l'investisseur salarié a néanmoins pris un risque capitalistique à l'entrée de l'investissement. Alors, pour ce faire, effectivement, c'est à l'administration de venir prouver, de venir démontrer que la plus-value de cession trouve essentiellement sa source dans les fonctions salarié ou mandataire social exercé par l'investisseur. Pour ce faire, le commissaire du gouvernement, dans le cadre de ces trois arrêts du Conseil d'État, a listé toute une série de marqueurs, c'est une liste non exhaustive, mais une liste de marqueurs dont la présence, en tout cas, est de nature à considérer que la plus-value peut être requalifiée en salaire. Alors, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces marqueurs soit présent, il faut a priori qu'un certain nombre de ces marqueurs soient présents de façon à ce que une requalification en salaire puisse, le cas échéant, être crainte. Et en tout état de cause, c'est un mécanisme d'appréciation, c'est une appréciation objective au cas par cas. Alors parmi ces marqueurs, eh bien, ce sont des marqueurs que l'on retrouve bien évidemment dans la documentation juridique qui est établie à l'occasion de l'investissement, le plus souvent dans le cadre des pactes d'actionnaires. On retrouve des clauses d'incessibilité de titre, des clauses d'inaliénabilité qui quelque part caractérisent le fait que le salarié dirigeant n'a aucun pouvoir, en aucun cas n'a la possibilité de céder ses instruments pendant la durée de l'investissement, sans marge de manœuvre possible. Bien évidemment, le fait que ces titres soient acquis ou souscrits et réservés à des salariés ou dirigeants est également un marqueur. le fait d'insérer au sein du pacte d'actionnaires des obligations d'exclusivité, de loyauté, voire même de non-concurrence qui font ici un lien direct avec les fonctions de salarié ou de mandataire social sont bien évidemment des marqueurs forts. Et enfin, dans les caractéristiques financières même des instruments octroyés, notamment lorsque l'on parle d'ADP dite Ratchet, avec des effets relutifs, notamment lorsque ces ADP sont les droits financiers de ces ADP, ces actions de préférence, correspondent effectivement à une rétrocession de la plus-value réalisée par l'investisseur financier en fonction de la réalisation et l'atteinte d'objectifs de performance. Là, on a un calcul de droits financiers qui s'écarte d'une plus-value d'un profit relevant d'une action ordinaire. Là, on est sur le calcul d'un droit financier qui finalement est corrélé à l'atteinte d'un objectif de performance pour lequel un lien pourra le cas échéant être réalisé avec le contrat de travail. Donc ces droits financiers particuliers, sous condition d'atteinte, peuvent être également des marqueurs. Alors aujourd'hui, en conclusion, effectivement, les praticiens, les avocats fiscalistes réfléchissent à la façon de sécuriser les packages, les margin packages au bénéfice de dirigeants, de salariés à mettre en place. Il s'avère que la pratique de marché, bon, bien évidemment, n'a pas de solution toute faite. L'objectif, c'est bien évidemment d'atténuer le risque de requalification eu égard aux marqueurs qui ont été identifiés par la jurisprudence fiscale dans le cadre du Conseil d'État. Alors bien évidemment, on ne peut pas exclure que dans le futur, les URSSAF et notamment la Cour de cassation au plan des charges sociales viennent s'inspirer du raisonnement établi par le Conseil d'État en matière fiscale de façon à reprendre le raisonnement. C'est en cela qu'il est important effectivement de structurer avec soin ces management packages. Alors généralement, ce qu'on constate aujourd'hui, le plus souvent, c'est une combinaison de divers outils, instruments, capital réglementés et non réglementés dans le cadre du package, afin justement de gérer, de limiter, atténuer autant que possible ce risque de requalification. Ce qu'on constate généralement, c'est qu'il y a une partie co-investissement dite pari passu qui est souscrite à valeur de marché, au prix de la transaction généralement, ou en tout cas un prix de marché documenté par un expert. Ce sont des actions ordinaires souscrites par les managers, les dirigeants. Enfin, à côté de cela, on a recours en revanche à des outils dits réglementés, type actions gratuites, légalement encadrées par le code de commerce, pour structurer effectivement les instruments dits préférentiels qui constituent le cœur du package et qui généralement recèlent la plus grande potentialité de gain. C'est en cela que les actions de préférence dites ratchet ou même les actions ordinaires octroyées en sus du coût d'investissement dit sweet equity sont généralement attribuées sous la forme de plans d'attribution gratuite d'actions, de façon à bénéficier du régime légalement encadré et donc limiter, nous le pensons, le risque de requalification en salaire puisqu'il s'agit de dispositifs d'actionnaires salariés qui, par définition, sont réservés à des salariés. Donc aujourd'hui, effectivement, nous incitons les sociétés à revoir, à identifier au sein de leur management package existant d'éventuels risques à l'aune de ces jurisprudences récentes afin d'anticiper un éventuel débouclage et jauger la matérialité potentielle d'un risque de requalification à la fois au plan fiscal mais également au plan URSSAF pour la société. Certains clients, certaines sociétés nous demandent s'il est opportun de remanier, de modifier, d'amender le management package en cours de vie avant d'un débouclage, compte tenu effectivement de ces évolutions jurisprudentielles. Alors, il faut savoir que c'est un procédé qui peut être à double tranchant, puisque bien évidemment, on peut considérer que c'est se mettre en conformité par rapport aux dernières jurisprudences en vigueur, mais on ne peut pas exclure que ce type de modification en cours de route pourrait attirer l'attention des administrations et même être interprété comme quelque part le fait d'admettre que le package était structuré comme un revenu d'activité quelque part, avec une prise de risque capitalistique peu importante, et en tout cas de nombreux marqueurs faisant un lien avec les fonctions salariées. La tendance actuelle et la pratique de marché que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'effectivement les clauses d'inaliénabilité sont aujourd'hui proscrites dans la documentation juridique et notamment le pacte d'actionnaires mis en place lors de l'investissement, et généralement remplacées par des clauses d'agrément renforcé avec des obligations de rachat, de façon quelque part à assurer que, au plan juridique, les managers, les dirigeants, les salariés demeurent juridiquement en droit de céder leurs actions, sous réserve de cette clause d'agrément renforcé. Il y a aussi une limitation des clauses dites de leavers, organisant effectivement la liquidité des actions en cas de départ anticipé des investisseurs du fait de la cessation de leur mandat social, la cessation du contrat de travail. Généralement, ces clauses dites de leavers ne concernent que les instruments réglementés, par exemple les actions de préférence ou actions ordinaires attribuées gratuitement. On essaye de ne pas les appliquer sur le co-investissement ou les actions ordinaires acquises à valeur de marché. Toujours sur ces cas de départ anticipés, on s'efforce d'uniformiser justement les formules de calcul des prix de rachat des actions de salariés partant avant le débouclage du management package, de façon à éviter de donner du grain à moudre à l'administration fiscale, puisqu'effectivement la détermination de prix de rachat différencié en fonction justement du cas de départ, licenciement ou autre, du salarié, serait un marqueur fort, ou en tout cas permettrait aisément à l'administration de venir établir un lien avec le contrat de travail. Et enfin, finalement, on essaie d'éviter les clauses de non-concurrence dans la mesure du possible dans le pacte d'actionnaires en les laissant circonscrites au contrat de travail. Donc aujourd'hui, effectivement, on incite grandement nos clients ETI, PME, entreprises familiales, souhaitant mettre en place ou ayant déjà mis en place des mécanismes d'association au capital de leurs dirigeants au sens large, de leurs managers clés et salariés, eh bien, le cas échéant de procéder à un audit de façon à jauger, identifier la matérialité du risque de requalification par rapport aux dernières jurisprudences en date et voir quels sont les amendements, les modifications, les atténuations, le cas échéant à apporter, voire même les conseiller sur la structure d'un nouveau package à mettre en place ultérieurement. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre épisode 6 consacré effectivement à la fiscalité du dirigeant actionnaire au sens large, qui peut être à la fois effectivement titulaire d'un mandat social, mais également actionnaire au sein de la société. On vous remercie grandement pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par email ou via le lien qui vous sera communiqué. Également, n'hésitez pas à répondre au questionnaire qui vous sera donné à la fin de cette présentation. Et bien évidemment, nous restons à votre disposition. Nos coordonnées vous seront communiquées en fin de présentation si vous avez la moindre question. Merci à vous. Au revoir.